Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, les intempéries dans le sud-est ont fait au moins 2 morts, 2 corps retrouvés dans une voiture emportée par les flots près de Sainte-Maxime. Élodie Calac, Météo France, vous êtes avec nous. L'autre information de cette mi-journée, Élodie, c'est que le temps se calme dans le sud-est.
Oui, les averses, le risque orageux ne concerne plus que le sud des Alpes, la Côte d'Azur et l'est de la Corse. La Corse est d'ailleurs sortie de la vigilance orange. Le Var, lui, reste en vigilance orange pour la crue de l'Argence, mais ça devrait s'arranger en cours de journée. Et puis on a une perturbation qui arrive par l'ouest avec des pluies, des orages, et ça devrait atteindre l'Île-de-France en soirée.
De l'eau dans le sud, une exquise douceur dans le centre de la France et la sécheresse dans l'est, entre autres. Nous nous arrêterons au début de ce journal sur cette étrange situation. Un salarié des télécoms électrosensibles reconnu victime d'un accident du travail. Quelle est la portée de cette décision? Nous verrons cela. Les entorses à la laïcité à l'école. Bonjour Sonia Bourane.
Bonjour.
Spécialiste des questions d'éducation à France Inter. Sonia, on met des chiffres sur le phénomène?
Oui, on ne peut pas parler de recrudescence, mais les atteintes à la laïcité à l'école existent. 400 cas ont été traités au printemps dernier par les référents laïcité. Celui de l'Académie d'Aix-Marseille, par exemple, nous parlera d'un père qui ne voulait pas que sa fille s'assoie à côté d'un garçon en classe.
Autre détail et cas concret avec vous tout à l'heure. L'Arabie Saoudite peut-elle faire disparaître des journalistes en toute impunité? C'est l'affaire Jamal Khashoggi. Pas de preuves formelles. Riyad, suspect numéro 1. Et cette histoire dit sans doute beaucoup de choses du régime saoudien et des relations internationales. Nous en parlerons avec le spécialiste Pierre Conessa. Dans cette édition encore, près de 19 heures dans l'avion. Le plus long vol commercial de l'histoire décolle bientôt de Singapour direction New York. Autre vol beaucoup plus court que prévu, celui-là. Atterrissage d'urgence pour une capsule Soyouz, panne de moteur, les deux astronautes vont bien. Des lapins qui passent leur vie sur l'équivalent d'une feuille de papier. L'association 60 millions de consommateurs met de nouveaux chiffres et de nouvelles images sur le sort fait aux animaux d'élevage. Vous venez de l'entendre, les places boursières se cassent la figure les unes après les autres. Pourquoi cela? Nous verrons avec un économiste. Et puis en attendant le remaniement, le Premier ministre Édouard Philippe de retour dans sa ville du Havre. Il fait de l'humour et cite Fernand Braudel.
La mer atteinte sans hâte et jamais maîtrisé. J'avais particulièrement hâte aujourd'hui, même si l'impatience n'est pas dans ma nature, comme vous avez pu le constater.
En effet, du Havre à Guingamp, les champions du monde de foot sont en Bretagne. France-Islande ce soir, c'est la folie à Guingamp. Nouveauté de la soirée, Mbappé jouera dans l'Axe. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
L'alerte orage et pluie inondation est levée dans le sud-est de la France, continent et Corse. Elle est maintenue dans le Var pour un risque de crue montée de la rivière Argence. C'est dans le Var que la pluie a sévi le plus violemment. 250 interventions de pompiers au moins depuis hier soir. La situation est encore critique à Fréjus et Sainte-Maxime. 5 voitures emportées par les flots près de Sainte-Maxime. Dans l'une d'entre elles, 2 corps ont été retrouvés. Marie-Christine Loriol.
La voiture emportée par les eaux se trouvait à quelques dizaines de mètres du rivage. Retournés, seuls les 2 roues arrière émergeaient. C'est à l'aide d'un tractopelle que les équipes de secours l'ont remonté sur la plage. Dans l'eau, 2 plongeurs de la Marine nationale dirigeaient les opérations. Dissimulés derrière une grande bâche noire, les enquêteurs ont découvert 2 corps dans l'habitacle, 2 personnes dont on ne connaît pas l'identité. Une femme était portée disparue hier soir dans le quartier de la Granette, du nom de cette rivière côtière qui en quelques minutes s'est transformée en torrent, comme en témoigne cette mère de famille.
Ça s'est passé en 10 minutes. On était à l'intérieur des maisons. On a dit avec mes enfants, on va déplacer les voitures. Le temps de revenir, on a dû s'accrocher au mur parce que la rivière avait complètement débordé. Les voitures sont arrivées devant la maison, ça a fait un bouchon, l'eau est rentrée complètement. C'était vraiment très impressionnant, ça faisait un torrent d'eau. Tout était emporté, tout. On a rentré les enfants, on avait de l'eau jusqu'aux cuisses, quoi. C'était vraiment très impressionnant. Et c'est le torrent, ça faisait des vagues, c'était un torrent, vraiment un torrent fou.
Si la pluie a cessé aujourd'hui sur le golfe de Saint-Tropez, le Var est toujours placé sous vigilance orange crue et un nouvel épisode orageux est annoncé dimanche et lundi. Roquebrune sur Argence, Marie-Christine Loriol, France Inter.
Une partie de la France sous les eaux, une autre profite d'une exceptionnelle douceur et même chaleur pour un 11 octobre. 27 degrés cet après-midi à Bourges, à Nevers, à Montauban, à Auch. Chaleur et sécheresse. La sécheresse dans l'Est notamment, après les fortes pluies du printemps. La conséquence de ce cocktail à Thionville, des sols qui s'affaissent, des façades qui se fissurent. Marie Roussel.
Dans le salon de Pascal, à la décoration très soignée, de grosses fissures noires contrastent avec les murs blancs cassés.
Ici, ce sont quand même les plus importantes puisqu'elles touchent un mur porteur qui fait 50 cm d'épaisseur et ça doit faire bien 80 de large. Donc vous voyez, tout ça, ça va à l'extérieur.
Justement, l'extérieur de la maison est tout aussi impressionnant. Pascal nous montre les escaliers et la terrasse. Complètement affaissé.
Moi, j'endors pas de la nuit. On a été atterré quand on est rentré de vacances et qu'on a trouvé ça, parce que la maison est debout depuis 1620. Oui, c'est ça.
Et c'est en fait le mauvais cocktail entre les grosses pluies et la forte sécheresse ensuite qui ont provoqué ces dégâts.
On est sur de l'argile ici à Gentrange. L'argile s'est comprimée et les maisons descendent.
Pour aider Pascal et les autres habitants touchés, la mairie de Thionville va donc demander l'état de catastrophe naturelle. Patricia Renaud, chargée de l'environnement, a déjà reçu 8 dossiers de sinistrés.
Le phénomène devient récurrent, effectivement. Tous les ans, on a des problèmes d'inondation avec des ruissellements importants. De la même façon, la sécheresse, effectivement, on a vécu ça en 2016-2017. C'est assez terrible, surtout pour les habitants.
Et les Thionvillois ont jusqu'au 30 novembre pour se faire connaître auprès de la mairie.
Les intempéries et secousses de la terre, pas seulement en France, en Indonésie. C'est aujourd'hui la fin des recherches après le séisme et le tsunami qui a fait plus de 2000 morts dans la région de Palu, île de Célèbes. 5000 personnes sont toujours portées disparues, mais donc la fin officielle des recherches. Nathanaël Charbonnier.
Les caméras commencent à déserter les lieux, mais les images, elles, restent bien réelles. Maisons détruites, terres éventrées, récoltes inexploitables. Ce n'est pas la première fois que l'on se retrouve face à une telle situation, mais là, selon Frédéric Boyer, des relations et opérations internationales de la Croix-Rouge, c'est différent.
On est habitué, mais là, nous avons affaire à une catastrophe d'une ampleur exceptionnelle.
Et les chiffres sont là pour le prouver, des dizaines de milliers de personnes déplacées, des centaines de milliers de personnes directement touchées. Il faut dire que les habitants de l'île ont été confrontés non pas à un, mais à deux phénomènes.
La coïncidence entre ce tremblement de terre d'une forte magnitude et ce tsunami, avec le phénomène de liquéfaction des sols qui a fait que des villages entiers ont été engloutis, c'est absolument terrifiant.
Conséquence sur place, il y a besoin de tout, besoin de nourriture, besoin d'eau, ça c'est pour l'urgence, mais il faut déjà penser à l'après, car tout est à reconstruire. Frédéric Boyer.
Ces personnes qui ont tout perdu, il faut reconstruire de véritables maisons, il faut reconstruire des écoles, il faut reconstruire des hôpitaux, des centres de santé, les routes. Et puis, il faut que les gens puissent retrouver une activité économique pour faire vivre leur famille.
Et si vous voulez aider ou faire un don à la Croix-Rouge qui travaille en Indonésie avec son antenne locale, rendez-vous sur le site internet de la Croix-Rouge française.
Croix-Rouge ou d'autres associations à votre choix. Évidemment, les intempéries également à Majorque. 10 morts et un enfant porté disparu en ce jeudi à la mi-journée.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvy.
Les ondes du téléphone portable, le Wi-Fi, les appareils connectés, tout cela est-il parfaitement inoffensif? Non, répondent les personnes électrosensibles. Maux de tête, nausées, elles ressentent divers symptômes. En l'état, on ne peut pas scientifiquement établir de lien direct avec les ondes électromagnétiques, mais le cas d'un salarié d'une entreprise de télécom rebat les cartes. Il dit être électrosensible, il vient d'être reconnu victime d'un accident du travail. L'entreprise n'avait pas tenu compte des recommandations de la médecine du travail qui demandait sa mutation. Son avocat est Maître Laforgue, qui défend également l'association Priartem, en pointe sur le sujet.
Cette décision permet aux victimes électro-hypersensibles d'espérer une meilleure prise en charge de leur handicap et ça ouvre véritablement une brèche pour toutes ces victimes qui aujourd'hui nous sollicitent pour pouvoir obtenir soit la reconnaissance en maladie professionnelle de leur électro-hypersensibilité, soit la reconnaissance de leur handicap et une meilleure prise en charge de leur maladie. On a une quinzaine de dossiers d'électro-hypersensibles en reconnaissance maladie professionnelle, accident du travail ou demande d'aménagement de poste auprès des employeurs. On a également plusieurs dizaines de dossiers concernant les compteurs Linky.
Linky, les nouveaux compteurs électriques. Propos recueillis par Nina Valette. C'est un petit événement dans l'histoire de l'aviation. Le plus long vol commercial jamais effectué va décoller cet après-midi de Singapour, direction New York, sans escale. 16 700 km, près de la moitié de la circonférence de la Terre. 18h45 de vol, si les conditions météo sont normales. L'Airbus Airbus A350 à ultra long rayon d'action comptera deux pilotes, deux copilotes. Pour mémoire, Singapour est à la pointe sud de la Malaisie. L'avion va donc traverser l'Asie du sud au nord, voler au-dessus du pôle nord, puis le Groenland et enfin New York. Ce sont évidemment les progrès technologiques dans l'aéronautique qui permettent de voler plus longtemps, Sophie Becherel.
Une forme aérodynamique optimale, dotée de moteurs ultra performants, voilà le secret d'un vol hyper long. Bien sûr, on peut alléger le poids de l'avion en utilisant des matériaux composites, par exemple, ou en limitant le nombre de passagers. 161 sur ce vol Singapour-New York en Airbus A350, deux fois moins que la capacité maximale. Depuis 50 ans, les progrès ont été incessants sur le fuselage, mais pas seulement, explique Laurent Joly, chef du département aérodynamique à SupAéro Toulouse.
Ce qui a encore changé avec d'énormes gains d'efficacité récemment, c'est la conception des moteurs qui a fait encore gagner plusieurs pourcents de sobriété, de faculté à économiser le kérosène pour aller plus loin.
Pour ce vol, il y aura tout de même 15% de carburant en plus, soit un total de 165 000 litres de kérosène. Pour ne pas augmenter indéfiniment la taille des réservoirs, on peut aussi profiter des courants aériens favorables, ces jet streams qui jouent le rôle de tapis roulant. Mais ils sont compliqués à utiliser par les aiguilleurs du ciel, car ils varient en altitude et dans le temps. Les progrès futurs, espèrent les chercheurs, viendront d'innovations de rupture. Laurent Joly.
L'avion ne ressemblera plus à l'avion d'aujourd'hui, ou sera mû par des moteurs placés ailleurs sur l'avion, qui seront peut-être en plus grand nombre, plus petits ou un peu plus enterrés dans le fuselage ou dans les ailes, et qui recourront peut-être de plus en plus à l'énergie électrique, d'abord en hybridant pour aller peut-être un jour vers le tout électrique.
Des changements pas attendus avant des décennies.
Près de 19 heures de vol, donc si vous êtes de la famille claustrophobe, impatient ou jambes lourdes, sachez que Singapore Airlines, qui exploite la ligne, a prévu quelques aménagements pour les 161 passagers à bord. Pas de classe éco, que du premium ou du business. Le plafond de la cabine est plus haut que d'habitude, les hublots sont plus larges, éclairage particulier, menu particulier pour éviter, mais oui, les ballonnements. 1200 heures de films et programmes télé sont également à disposition des passagers. Et puis un vol a duré beaucoup moins longtemps que prévu et a failli tourner au drame, celui d'une capsule Soyouz en direction de la Station Spatiale Internationale, panne d'un moteur. Après le décollage de Baïkonour au Kazakhstan, deux astronautes étaient à bord, atterrissage d'urgence, ils sont indemnes. C'est la séquence en attendant le remaniement. Édouard Philippe de retour dans sa ville, celle du Havre. Il fait de l'humour, faute de mieux.
Il paraît que c'est la première fois qu'un Premier ministre et peut-être aussi un ministre de l'Intérieur intervient, parce que c'est le même, à un congrès annuel des greffiers des tribunaux de commerce. Je commence par préciser que je n'ai pas vocation à aller au-delà de ces deux postes. Ça n'est pas quelqu'un qui ferait l'intérim du ministre du garde des Sceaux qui est présent. J'en ai assez. À faire, je veux dire.
Voilà, Édouard Philippe, ce matin, propos recueillis par Laurence Perron. Le président de la République, lui, est à Erevan pour le sommet de la francophonie. Pas de remaniement, donc, avant vendredi soir minimum. C'est une question particulièrement sensible depuis les minutes de silence perturbées après l'attentat contre Charlie Hebdo, celle du respect de la laïcité à l'école. Des référents laïcité existent dans chaque académie et depuis le printemps dernier, les entorses à la laïcité sont systématiquement recensées. Sonia Bourane, comme promis, vous nous avez rejoint. Un bilan a été dressé ce matin. Les chiffres sont les suivants. Entorse à la laïcité, 1 000 000 de signalements entre avril et juin. Et les référents ont dû intervenir dans moins de la moitié, 400 de cas.
Oui, principalement dans les zones urbaines. 70% des cas sont concentrés dans 10 académies. Il s'agit de contestations de certains enseignements, les sciences ou la musique, ou de la mixité. Exemple avec le référent laïcité de l'académie d'Aix-Marseille.
Vous avez un papa tchétchène arrivé récemment en France qui n'accepte pas que sa fille soit assise en classe à côté d'un garçon. Donc l'équipe au départ ne sait pas trop comment réagir, l'enseignante est en difficulté. Donc nous, on a préparé l'équipe à répondre à ça. C'est-à-dire qu'avant que l'entretien ait lieu, c'était 15 jours de travail. La directrice d'école, on l'a accompagnée par des traducteurs, on l'a accompagnée par un homme, parce qu'il faut aussi qu'il y ait cette présence-là. On lui a donné des éléments de discours. Et la discussion ensuite s'est très bien passée. Et on a vraiment, si vous voulez, fait une réponse qui fait que le papa a accepté la réponse parce que vraiment, on lui a donné un cadre qui à la fois protège sa conscience tout en l'obligeant à respecter les valeurs de la République.
44% de signalements dans les collèges, 20% dans les lycées et 36% dans les écoles primaires où le phénomène semble s'accentuer, comme l'a précisé le ministre Jean-Michel Blanquer.
S'agissant d'enfants qui sont petits, on ne peut pas dire que ce soit eux les auteurs de l'atteinte au principe de laïcité. Mais le fait est qu'ils sont révélateurs d'un contexte de pression contre la laïcité, d'où le travail des équipes laïcité qui vont à la rencontre des parents, qui travaillent avec les autres services de l'État, de façon à rétablir les règles du jeu.
Chaque enseignant peut saisir le référent laïcité de son académie, qui est en général un inspecteur, un chef d'établissement ou un professeur.
Nous parlons à présent d'élèves d'école maternelle, des enfants qui s'en prennent à une petite fille de 4 ans, vêtements retirés et des attouchements. Cela serait passé dans une école de Paris mi-septembre. Une main courante a été déposée au commissariat. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Bruno.
Alors évidemment, cela fait bondir. Corinne, que sait-on de cette affaire?
Alors vous l'avez dit, tout part d'une main courante déposée au commissariat du 13e arrondissement, d'après le Parisien qui révèle cette affaire. L'auteur de ce signalement relate que 3 petits garçons de moyenne section de maternelle, donc âgés de 4 ans, auraient déshabillé une petite fille du même âge avant de pratiquer une pénétration digitale. De sources judiciaires, on confirme que cette main courante a été transmise à la brigade de la protection des mineurs, qui a décidé d'ouvrir une enquête. Alors le travail de ces policiers spécialisés, c'est d'abord d'établir ce qui s'est passé en recueillant la parole des enfants et en faisant procéder à un examen médical sur la petite fille. Toute la difficulté, c'est d'obtenir un discours spontané chez des enfants si jeunes, surtout s'ils ont déjà été interrogés par des personnes non formées, leurs parents, leurs enseignants. Ensuite, l'enquête vise à vérifier le contexte familial des enfants pour comprendre s'ils n'ont pas été témoins ou victimes d'actes sexuels, ce qui pourrait expliquer un comportement inapproprié. On est ici dans le côté assistante sociale de notre métier, me confiait une ancienne enquêtrice de la brigade des mineurs. Pour l'instant, la justice n'est pas saisie, mais quelles que soient les suites de l'affaire, il ne peut pas y avoir de sanctions pénales envers des enfants de 4 ans. La justice prend en compte le discernement des mineurs, c'est-à-dire leur capacité à comprendre les conséquences de leur acte. On ne peut donc pas parler d'une enquête pour viol, comme le titrait ce matin le Parisien, mais d'une investigation pour déterminer si des enfants sont en danger.
Merci Corinne Audouin. Je vous parlais tout à l'heure du déplacement du Premier ministre Édouard Philippe au Havre. Il parlait notamment des conséquences du Brexit sur les ports français. Et le Premier ministre annonce la nomination d'un coordinateur gouvernemental pour gérer cette question. Alors que la question du bien-être animal, elle, est de plus en plus médiatisée, l'association 60 millions de consommateurs apporte de nouveaux chiffres et de nouvelles images. Il est question de l'élevage industriel. Bonjour Manuel Ruffez.
Bonjour.
Spécialiste des questions agricoles à France Inter. On se doutait, Manuel, que les éleveurs industriels se souciaient assez peu de bien-être animal. Confirmation frappante.
Mais oui, ce hors-série lève le voile sur des pratiques d'élevage très courantes et pourtant peu connues et qui sont la conséquence de ces systèmes intensifs dans toutes les filières. L'élevage de poulets à 25 bêtes au mètre carré, des lapins en cage avec un espace moyen inférieur à la surface d'une feuille A4, les chèvres et les veaux qui ne verront jamais un pâturage, les vaches dont on coupe les cornes et les poussins mâles systématiquement envoyés à la broyeuse. Palme peut-être aux élevages de porcs dont Adeline Trégouette, la rédactrice en chef des hors-séries de 60 millions de consommateurs, souligne la violence.
L'élevage industriel fait bas dans la dentelle, donc pour les porcs on leur coupe la queue, on leur rabote les dents. Il y a aussi la castration à vif des porcs mâles, parce que ça, c'est des problèmes en fait d'odeur qui sont générés par les carcasses lors de la cuisson de la viande. Donc tout ça, c'est pas des choses qui devraient être systématiques.
Et le but, c'est de faire prendre conscience aux consommateurs de ces réalités de trop d'élevage en France pour éventuellement refuser les produits issus de ces systèmes industriels.
Ce sont des pratiques violentes, mais qui sont des conséquences d'une industrialisation et d'une production en gros volume. Il faut revenir à des choses à taille humaine, raisonnables, et c'est ce que souhaitent les consommateurs, à la fois pour eux-mêmes, pour leur santé, et aussi pour l'environnement.
Et le hors-série pointe aussi les efforts faits par la grande distribution, qui reste encore très à la marge.
Après ceux des États-Unis et d'Asie, les indices boursiers européens sont en forte baisse depuis ce matin. New York hier en chiffreront moins 3 pour le Dow Jones, moins 4% pour le Nasdaq, Shanghai moins 5, moins 1,6% à Paris ce matin. Que se passe-t-il? Alors c'est une réaction à la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, mais pas seulement. Écoutons l'économiste Christian Saint-Etienne, interrogé par Hélène Philly.
D'abord, la guerre commerciale lancée par Trump finit par avoir un impact sur l'évolution du commerce international. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que la Chine, qui a été le moteur de la croissance économique mondiale des 15 dernières années, c'était 30 à 40 % de la croissance mondiale. Or, la Chine ralentit. Et puis, le troisième élément qui énerve les marchés, c'est évidemment la situation en Italie, qui pose des questions particulières sur le devenir de la zone euro. On est dans une crise boursière de correction des cours, notamment aux États-Unis, où les grandes plateformes américaines, les GAFAM, atteignaient des valorisations phénoménales, 1000 milliards de dollars d'Apple ou d'Amazon. Bon, c'était certainement excessif. Donc il y a une correction qui peut atteindre 15 à 20% et qui en soi n'est pas du tout la fin du monde.
Propos recueillis donc par Hélène Fili. Le journaliste saoudien Jamal Khashoggi a subi une opération de liquidation comme dans les pires films d'horreur. C'est en tout cas le récit qu'en fait la presse américaine. Rappel des faits, ce journaliste critique à l'égard du pouvoir de Riyad, pigiste notamment pour le Washington Post, voulait épouser une Turque. Le 2 octobre en Turquie, à Istanbul, il entre dans le consulat de son pays, l'Arabie, pour des démarches administratives. On ne l'a jamais vu sortir. Et Valérie Crova, le récit que fait le New York Times est glaçant.
Est-ce que vous avez vu Pulp Fiction, Bruno ?
Oui.
On a vraiment l'impression de baigner dans un film de Tarantino, sauf qu'il ne s'agit pas d'une fiction. Alors les détails publiés par le New York Times sont vraiment sordides. Le journal reprend des informations données dès hier par les médias turcs. Le journaliste saoudien aurait été tué dans les 2 heures qui ont suivi son entrée dans l'enceinte du consulat d'Arabie Saoudite où il a été filmé par une vidéo de surveillance en train d'entrer sans jamais ressortir. Son corps aurait été ensuite découpé à la scie, selon la police turque. Le conditionnel est de rigueur car aucune preuve n'a été pour l'instant apportée. Toujours selon des informations qui ont fuité, 15 hommes sont arrivés le 2 octobre en avion privé d'Arabie Saoudite à l'aéroport d'Istanbul et parmi eux, il y aurait un médecin légiste, chef de service au sein du ministère de l'Intérieur saoudien. Cet homme aurait été identifié grâce à une vidéo prise lorsqu'il passe la sécurité de l'aéroport. Enfin, selon le quotidien turc Sabah, les employés du consulat d'Arabie Saoudite ont été invités à prendre une journée de congé le jour où Jamal Khashoggi s'est présenté. Tout ceci repose sur des renseignements communiqués par les services de sécurité turcs, considérés généralement comme fiables par leurs homologues occidentaux.
Merci Valérie Crova, invité de ce journal. Pierre Conessa, bonjour monsieur.
Bonjour.
Ancien diplomate, très bon connaisseur de cette région, auteur de ce livre « Docteur Saoud et Mister Jihad ». Vous avez entendu le récit que vient de faire Valérie Crova. On est dans une violence digne de Saddam Hussein. C'est un degré de violence habituel en Arabie Saoudite?
Non, ce qui est nouveau, c'est d'aller chercher un opposant à l'extérieur. Pour ce qui est de la violence du régime saoudien, vous savez, il suffit de rappeler quelques épisodes passés. Rappelez-vous la condamnation de ce blogueur à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet pour insulte à l'islam. C'était le thème qui a été retenu. Hein. On a effectivement la condamnation à mort avec crucifixion du neveu du dignitaire chiite Al-Nimr, donc décapitation, puis crucifixion jusqu'à ce que les chairs pourrissent. Bon, il y a le...
D'accord,
j'arrête la liste. Non,
pourquoi un tel degré de violence? Pour être ultra cynique, on peut imaginer qu'un opposant lui met une balle dans la tête et l'affaire est réglée. Pourquoi un tel degré de violence? On précise qu'il faut que tout ça soit confirmé, évidemment.
Il est possible que le but premier aurait été de le ramener en Arabie Saoudite. Peut-être l'homme a-t-il résisté, peut-être a-t-il été tué dans les locaux. Après, effectivement, le découpage en morceaux paraît effectivement une hypothèse logique pour le faire sortir. Sinon, on l'enterre dans le jardin. Mais c'est vrai qu'on est dans quelque chose qui est une machine qui s'affole. C'est-à-dire qu'entre le visage de MBS, vous savez, ce grand homme souriant... Mohamed Ben Salman, qu'on a vu sur toutes les premières, sur toutes les capitales du monde.
Le souverain soi-disant éclairé.
Oui, c'est ça, le prince héritier, soi-disant éclairé, effectivement, qui a fait cette tournée, qui a eu le soutien inconditionnel de Donald Trump, qui en France, effectivement, a eu droit aussi à quelques compliments, et qui, en fait, s'avère être une espèce de tyranneau qui va probablement changer la logique générale du système saoudien.
C'est-à-dire ?
Le système était un système assez consensuel, enfin un consensuel entre en tout cas les princes héritiers, les cercles du pouvoir et puis la hiérarchie religieuse. Or vous avez vu l'expérience du Ritz, c'est-à-dire qu'il a appelé tous ses petits camarades pour leur parler de l'avenir du pays et puis une fois qu'ils sont rentrés dans l'hôtel, il leur a pris leur téléphone portable et ensuite il leur a demandé des chèques à la sortie. Le premier qui en est sorti a payé $1 milliard pour 2 nuits, c'est quand même l'hôtel le
ça
plus cher.
Ça fait cher la nuit, oui.
Ça fait cher la nuit. Et on pense qu'il a recueilli à peu près entre 60 et 100 milliards de cet argent, qui est de l'argent volé, hein, qui est de l'argent de la corruption. Bon, cela dit, lui-même, pendant ce temps-là, il s'est acheté un yacht à 450 millions de dollars, et puis il a acheté un château près de Louveciennes, qui est une copie de Versailles. Donc, c'est pas vraiment une opération anticorruption, c'est une reprise en main de son entourage. Ce qui pose un problème, parce qu'effectivement, il a dépossédé son demi-frère de son titre de prince héritier pour prendre sa place, donc il est probable que l'homme a quelques ennemis. Là où il n'a touché à rien, pour le moment, c'est à la hiérarchie religieuse.
Pierre Conessa, pour revenir à l'histoire de ce journaliste saoudien, petit 1, il a forcément validé, le roi a forcément validé, et 2, Mohamed Ben Salman, son fils, a forcément validé ou pas?
C'est très difficile, et très difficile de répondre à ça. Vous savez, quand vous êtes dans un système dictatorial ou tyrannique, comme vous voulez, vous avez toujours des courtisans qui se disent « je vais faire plaisir et donc je vais anticiper, je vais proposer une solution et que ça ait dérapé, c'est possible ». Cela dit, l'arrivée des 15 personnes laisse penser que c'est une opération organisée, donc que la décision est remontée très haut dans le système. Je ne pense pas que le roi lui-même, qui est probablement dans un état de décrépitude avancée, ait directement validé lui-même. Il s'est déjà opposé à son fils, notamment sur la question de la règlement du claquet question palestinienne, mais là-dessus, je ne sais pas.
L'aspect relations internationales, je caricature à peine, Pierre connaît ça, pourquoi personne ne dit rien?
Bah écoutez, je vous retourne la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde observe un extraordinaire mutisme concernant l'Arabie Saoudite. Vous avez remarqué qu'on se réveille pour Khashoggi, parce que c'est un journaliste, c'est-à-dire qu'on peut espérer que la corporation elle-même va commencer à se sentir concernée. Là où probablement ils ont fait une faute, c'est que Khashoggi était correspondant du Washington Times.
Washington Post.
Ouais. Ce qui veut dire que la presse américaine, c'est pas Trump. Et là, il y a probablement un élément de solidarité qui va se retourner contre Mohamed Ben Salman. Par contre, on peut supposer que Trump fera un de ses communiqués officiels dont les diplomates ont le secret. Vous savez, il va demander une enquête officielle et puis on enterrera la chose jusqu'à là.
Et la France, dont certaines ONG disent qu'elle est co-belligérante au Yémen avec l'Arabie Saoudite?
C'est vrai et faux. C'est-à-dire que c'est vrai que la France est un pays hors d'Europe qui n'a jamais posé la question de la fourniture d'armes à l'Arabie Saoudite pendant la guerre du Yémen. Oui. Avec un bon argument, c'est qu'on ne vend pas d'avions en Arabie Saoudite. Donc comme on ne vend pas d'avions, effectivement, on participe indirectement. Mais enfin, comme on vend des bombes et comme on vend des matériels de guerre, on aurait au moins pu poser la question. Ce que l'Allemagne a fait... Ce que le Canada a fait, mais probablement en se tirant une balle dans le pied, c'est-à-dire qu'ils ont critiqué la demande de condamnation à mort de ces 4 militants non pacifistes et de cette femme féministe. Mais vous avez vu le retour de bâton, puisque l'Arabie Saoudite a rompu les relations diplomatiques avec le Canada.
Merci Pierre Conessa d'être venu répondre à nos questions. On se reporte donc à votre livre Dr Saoud et Mister Jihad. L'actualité du football et cette confirmation arrivée il y a quelques minutes. Monaco officialise le départ de son entraîneur Leonardo Jardim. On ne connaît pas pour l'instant le nom du successeur parmi les noms qui circulent, celui de Thierry Henry. Monaco qui a fait un début de saison catastrophique, que ce soit dans le championnat de France ou en Coupe d'Europe. Bonjour Sébastien Hazard.
Bonjour.
Le football avec vous, ce n'est pas à Monaco, c'est à Guingamp où les champions du monde français jouent ce soir en match amical face à l'Islande. Quelle ambiance à Guingamp?
Oh, il y a des guirlandes tricolores dans quelques boutiques, de ci, de là, des drapeaux bleu, blanc, rouge accrochés aux fenêtres. L'équipe de France, c'est bien sûr le sujet de discussion préféré. La boutique de l'En Avant Guingamp, le club de Ligue 1, fier d'être bleu, c'est marqué d'habitude, c'est plutôt rouge, la couleur de l'En Avant. Et puis bien sûr, il y a eu cet entraînement public hier, 16 400 supporters présents. Deux fois la ville de Guingamp dans le stade. Juste génial pour tous ceux qui ont pu être présents.
Voir l'équipe de France à Guingamp, c'est exceptionnel, on voit pas ça tous les jours.
C'est un rêve du coup, depuis qu'ils ont été champions du monde, de les voir vraiment en vrai, c'est exceptionnel. J'aurais préférence pour Mbappé, Varane.
Ça nous fait revenir sur l'été, la famille, les amis, des bons moments ensemble. Et de les voir en vrai, ils sont pas comme à la télé physiquement, ils paraissent plus grands, plus fins.
Voir des champions du monde de près, je crois que c'est le rêve des grands, des tout petits.
C'est énorme, c'est un rêve d'enfant.
Et après la répétition générale hier, tous les supporters espèrent un récital de leur champion du monde ce soir, dans un stade qui sera une nouvelle fois plein, évidemment.
Merci Sébastien Hazard. Coup d'envoi à 21h avec un Kylian Mbappé en pointe de l'attaque française. On verra ce que ça donnera, on suivra cela avec vous.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Le temps très cruel ces dernières heures. Je vous rappelle ces deux corps retrouvés au large de Sainte-Maxime dans le Var. La situation, cela dit Elodie Calac, Météo France, s'améliore quelque peu.
Les fortes pluies s'éloignent, des averses concernent encore les régions allant des Alpes du Sud à l'est de la Corse. Elles peuvent s'accompagner d'orages sur la Corse. Le vent est parfois marqué, restez prudents. Dans le Var, la situation s'améliore lentement sur le cours d'eau Argence. Sur l'Alsace, il reste quelques averses. Des pluies orageuses et du vent gagnent l'ouest du pays jusqu'à la Basse-Normandie et à l'Aquitaine. En fin de journée et en soirée, elles finiront par atteindre le nord de la Seine, la région parisienne, le Limousin et Midi-Pyrénées, effaçant les éclaircies. Il fait très doux pour la saison, 17 à 23 degrés sur le nord-ouest, 21 à 27 ailleurs. Demain, beaucoup de vent sur le nord-ouest, des nuages pour le Languedoc-Roussillon et du soleil ailleurs.